permis de penser. Bonjour à toutes et à tous. Sommes-nous dans une démocratie intermittente? Comment faire fonctionner le contrat social? Pourquoi ressentons-nous ce sentiment d'impuissance du politique? Avons-nous, à bas bruit, changé d'époque? La construction sociale est-elle encore au centre de la vie politique? Le discours technolibéral, l'affaiblissement de l'État-nation, la vitesse des marchés ne nous transforment-ils pas en consommateurs en oubliant que nous sommes d'abord et avant tout des citoyens? Au lendemain des élections britanniques, qui consacraient donc la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, et à la veille des élections en Espagne, comment réinventer la démocratie? Avec nos deux invités, Chantal Mouffe, philosophe politique, enseignante à l'université de Westminster à Londres, auteur de L'illusion du consensus, et Michèle Rio-Sarcé, historienne, professeure émérite à l'université Paris 8, spécialiste de la période contemporaine de la démocratie et du féminisme, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier s'intitule « Le procès de la liberté ». Et tout de suite, nous allons commencer à écouter ce qu'a prononcé David Cameron comme discours au moment même où il apprenait la décision de son peuple. C'était hier.
My belief that Britain is stronger, safer and better off inside the European Union.
Je reste persuadé moi-même que le Royaume-Uni est plus fort au sein de l'Union européenne.
Not the future of any single politician, including myself. But the British people have made a very clear decision.
Mais les Britanniques ont pris une décision très claire.
And as such, I think the country requires fresh leadership to take it.
Et je pense que le pays a besoin d'un nouveau leader.
I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months.
Je ferai tout ce qu'il faut en tant que Premier ministre pour diriger ce bateau pendant les prochaines semaines et prochains mois.
That steers our country to its next destination. This is not a decision I've taken lightly.
Je n'ai pas pris cette décision à la légère, mais je crois que c'est dans l'intérêt national d'aller vers un nouveau gouvernement. Peut-être pas aujourd'hui, mais il faudra sans doute un nouveau Premier ministre à partir du mois d'octobre.
France Inter, permis de penser, Laura Adler.
Alors avant de réfléchir aux conséquences de la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, un peu d'histoire, Michèle Rio-Sarcé. La démocratie.
La démocratie suppose préalablement un débat entre la totalité des citoyens qui sont non seulement également libres, mais qui peuvent dialoguer entre eux en toute connaissance de cause. Égalité de droit, mais égalité également de pouvoir exercer ses droits. Et c'est quelque chose qui est absolument inatteignable dans la situation présente, puisque aujourd'hui, nous sommes les héritiers d'un processus historique qui n'a jamais imaginé possible ce que Quinet disait déjà au lendemain de la Révolution française. La Révolution a ouvert tout les possibles, voire l'impossible. Et l'impossible, c'était que chaque citoyen, chaque citoyenne pouvait imaginer demain, en étant libre, également libre, à condition de pouvoir exercer ses droits. Louis Blanc le précisait dès les années 40, encore faut-il pouvoir les exercer. Comme il n'a pas été possible, que ce soit en France ou en Europe, pour des raisons d'ordre diverses, mais en particulier parce qu'on a imaginé que la liberté signifiait l'équivalent du libéralisme, on a cru qu'il était largement envisageable d'organiser une démocratie dite représentative avec des citoyens privilégiés qui avaient la possibilité d'imaginer possible de gouverner les autres et l'essentiel de la population qui a été considérée comme citoyennes et citoyens passifs. C'est-à-dire qu'on a accordé les droits égaux, mais absolument pas la possibilité de les exercer. Et aujourd'hui, que partout en Europe, l'équivalent où le système de l'État-providence perd et prend l'eau n'a plus la même efficacité, c'est quelque chose qui est absolument dramatique, si bien que la totalité de la population démunie, incapable de pouvoir exercer ses droits par parce que la situation matérielle est particulièrement difficile. Je pense notamment en Angleterre où les contrats zéro heure ne peuvent absolument pas permettre aux gens d'exister. Comment voulez-vous qu'on parle de démocratie dans un référendum où les individus, quels qu'ils soient, ne sont absolument pas à égalité de connaissances, à égalité de moyens pour exercer ces droits? Il importe donc, aujourd'hui plus que jamais, nous vivons une véritable épreuve de vérité, de repenser la démocratie dans sa totalité et d'imaginer, compte tenu malgré tout de la politisation et de l'éducation largement étendue, que nous pourrions refonder la démocratie, non pas par en haut, mais faire en sorte que les citoyens s'emparent de leur pouvoir d'être libres, ce qui signifie pouvoir de penser, pouvoir de s'exprimer, pouvoir d'exercer matériellement, politiquement, intellectuellement ses droits en toute connaissance de cause. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, j'en ai parfaitement conscience, mais je crois que là, avec à la fois la position de l'Angleterre, avec les résultats du Brexit, les résultats du référendum qui n'étaient pas véritablement démocratique de mon point de vue, compte tenu de ce que je viens de dire, et ce qui se passe partout en Europe, je crois que l'exemple de la Grèce est particulièrement éloquent. C'est illusoire de croire qu'un pouvoir aussi consensuel soit-il, aussi proche d'un peuple, puisse résoudre la question à l'échelle de la nation, c'est à l'échelle de l'Europe au mieux, voire au pire, je veux dire, voire à l'échelle internationale, qu'il importe vraiment d'imaginer une autre démocratie où les inégalités sont prises en compte en premier lieu. C'est-à-dire inégalités qui s'expriment aujourd'hui dans les différents mouvements. Ça a commencé en Espagne, c'est aujourd'hui en France avec les Nuits debout, avec toutes les manifestations, la loi travail. Cette loi est absolument délétère parce qu'elle permet incontestablement d'imaginer une situation semblable à la situation anglaise où les travailleurs pourront sans aucun doute maintenant.
Bah dites-moi, vous dressez un tableau apocalyptique. Vous avez l'air très très inquiète, Michèle Rios-Arce. Est-ce que vous, Chantal Mou, vous partagez cette vision historique d'une fin de période et d'une nécessité de repenser justement le terme même de démocratie et ses fonctionnements possibles? Est-ce que la démocratie, ça a été une promesse depuis la Révolution française? C'est un idéal qui n'est toujours pas réalisé et dont il faut repenser les fondements?
Mais moi, je voudrais poser le problème d'une façon un peu plus générale, parce qu'on dit, bon, la démocratie. En fait, démocratie, ça veut dire demos kratos, le pouvoir du peuple. Mais cet idéal peut s'inscrire de manière différente dans différents contextes historiques, géographiques. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de la démocratie, nous parlons de notre modèle occidental de la démocratie. Donc, en fait, toute cette réflexion que Michel vient de faire, c'est sur la démocratie, notre démocratie. Ben, je crois que, d'abord, j'insiste que, alors là, je me différencie de beaucoup de théoriciens politiques comme Jürgen Habermas, qui considère que notre modèle de démocratie, c'est ça, c'est l'essence de la démocratie, c'est ça. Et que d'abord, c'est un modèle qui doit être universalisé. Donc, en fait, ça veut dire en pratique que pour un pays, pour se démocratiser, il faut qu'il s'occidentalise. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai écrit
c'est ce que vous dites dans votre dernier cosmopolite.
Bouquin. Mais... Bon, enfin, je ne vais pas...
C'est on
pas
y reviendra.
Ce n'est pas la question. Peut-être, non, d'accord, on y reviendra.
En tout cas, c'est un facteur de réflexion d'accord. très important. Oui, on n'était pas obligé de toujours fonctionner sur le schéma occidental.
Oui, je crois. Bon, ce modèle occidental de démocratie, c'est en fait l'articulation de deux traditions, la tradition libérale et la tradition démocratique. La tradition libérale, c'est la tradition de l'état de droit, la séparation des pouvoirs, des droits de l'homme. Et la tradition démocratique, c'est la tradition justement de la souveraineté populaire et qui met l'accent alors plutôt sur l'égalité. Donc, c'est l'articulation en fait entre deux idéaux, la liberté et l'égalité. Alors là, il y a toute une discussion en philosophie politique sur sont-ils compatibles? Bon, moi je crois que en dernière instance, on ne peut pas les réconcilier. Parce que une égalité absolue, totale, et une liberté totale, ce n'est pas possible. Mais alors, il y en a qui disent, bon, Carl Schmitt, par exemple, dit en conséquence, la démocratie libérale, c'est un système inviable. D'un autre côté, Habermas, lui, affirme qu'il y a justement une co-originalité entre ces principes. Moi, en fait, je ne suis d'accord avec aucun des deux. Je crois que je suis d'accord avec Schmitt, qui sont en dernière instance irréconciliables. C'est pas du tout co-original. Alors, je crois que, par exemple, Sibby McPherson, dans son magnifique petit livre The Life and Times of Liberal Democracy, a bien montré comment cette articulation entre libéralisme et démocratie a eu lieu durant le 19e siècle, principalement, lorsque, a-t-il dit, la démocratie s'est libéralisée, le libéralisme s'est démocratisé, mais c'est une articulation qui est contingente. Il n'y a rien de nécessaire dans cette articulation. Mais bon, je défends, je m'identifie avec notre modèle.
Vous plaidez pour le maintien de la démocratie libérale, quand même.
Oui, mais pour sa radicalisation. C'est pour ça que je ne mets pas du tout en question. Je crois que, pour moi, il existe, je ne suis pas du tout d'accord avec Schmitt quand il dit que c'est un système inviable, mais je dis qu'il y a, je vois là une tension, toujours, entre le libéralisme et la démocratie, entre les idéaux de liberté et d'égalité. Mais c'est une tension qui est très productive, qu'il faut défendre, parce que c'est là, justement, que se situe la possibilité du pluralisme. Toute une histoire de la démocratie moderne, c'est il y a eu un moment où c'était la tradition libérale qui était le supérieur, enfin, dans le rôle dominant. D'autres moments, c'était la tradition démocratique. Mais ce qui était important, c'est que cette tension, elle était toujours renégociée constamment. Aujourd'hui, et à mon avis, c'est le problème principal que nous vivons, c'est pour ça que je suis d'accord quand on dit que nous vivons dans des sociétés post-démocratiques, c'est que, à cause justement du développement de l'hégémonie du néolibéralisme, tout ce qui a à voir avec la tradition démocratique a été laissé de côté. On nous dit que la souveraineté populaire est une catégorie zombie, c'est obsolète, et qu'en fait, la démocratie, quand on en parle, ça veut dire uniquement les droits de l'homme, les élections. Alors, à mon avis, la grande partie des problèmes que nous vivons aujourd'hui consiste justement du fait que, c'est pour ça que je parle de société post-démocratique, on dit encore qu'on est démocratique, mais en fait, le peuple, la participation de alors, c'est vrai que la souveraineté populaire, c'est un concept très compliqué, très problématique. Hein. Kelsen disait, c'est un basque totémique. Bon. Et moi, mon interprétation, c'est que la plupart des mouvements populistes qui existent aujourd'hui, il faut les voir malgré le fait que certaines articulations, évidemment, sont extraordinairement problématiques. C'est un cri du peuple pour dire, mais nous, on veut participer. Il y a finalement plus de différence entre la droite et la gauche. Donc, ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a un rejet de ce système. Les gens vont voter, mais ils n'ont pas la possibilité de choisir entre des projets vraiment différents. Comme les Indignados en Espagne disaient, nous avons un vote, mais nous n'avons pas de voix. Alors, je crois que, justement, ce qui se passe aujourd'hui, les mouvements de protestation, les gens veulent avoir une voix, mais il est très important justement que les partis de gauche parviennent à articuler, à exprimer dans un vocabulaire, disons, progressiste de radicalisation de la démocratie, cette voix du peuple. Parce qu'en fait, il faut, la démocratie consiste toujours, pour moi, et ça pour moi c'est fondamental, il faut construire un peuple. Demos kratos, on n'a pas de kratos du demos si on n'a pas un demos. Mais ce peuple peut être construit de manière très différente. Il peut être construit à la façon de Marine Le Pen, un peuple qui exclut les émigrés, tandis qu'un projet de gauche, alors c'est ce que j'appelle, vous savez que je défends l'idée d'un populisme de gauche, ça serait justement construire un peuple qui soit un peuple dont les demandes consistent à radicaliser la démocratie.
Permis de penser sur France Inter, Laure Adler.
On écoute David Graeber. David Graeber qui est un philosophe politique d'origine américaine et qui enseigne comme vous en Angleterre et qui est un des penseurs justement de la possibilité d'un renouveau de la démocratie.
Si on considère l'histoire de mon propre pays, il y a eu trois occasions différentes au cours desquelles il y a eu une mobilisation globale en termes de démocratie directe et d'action directe. Enfin, quatre maintenant. Il y a eu le mouvement des droits civiques, le mouvement antinucléaire, il y a eu le mouvement d'altermondialisation et bien entendu Occupy aussi, Occupy Wall Street. Et dans chaque cas, c'est très semblable à ce qui s'est passé. La classe dirigeante a paniqué, elle était terrifiée. Immédiatement, ils ont accordé certaines des demandes fondamentales du mouvement. Ils ont
éliminer le mouvement le plus radical, le plus violent, et ils sont allés de l'avant. Que ce soit le Vietnam, les guerres par procuration en Amérique latine ou ailleurs, la guerre contre le terrorisme. Et maintenant, quelque chose de très semblable se produit. Donc ça montre que à quel point la classe dirigeante est véritablement effrayée chaque fois qu'il y a un mouvement de mobilisation qui n'entre pas dans les cases préétablies du système social. Donc, quand il y a cette conscience que l'on peut véritablement faire une différence sur le plan historique, c'est très dur d'y résister.
Alors, comment refonder la démocratie ? Chantal Mouffe vient de dire qu'elle croit à une distinction, voire une opposition droite-gauche et une fondation d'un populisme de gauche pour pouvoir tracer des frontières beaucoup plus évidentes pour que le peuple, ce fameux peuple dont on se prévaut depuis l'aube de la Révolution française, puisse s'exprimer. Là, Grébert vient de restituer toutes les luttes pour justement contester cette espèce d'essoufflement du fonctionnement de la démocratie. Est-ce que vous pensez toutes les deux, et vous êtes bien placées pour pouvoir analyser ce qui s'est passé avec les résultats du référendum britannique ?
Alors, si vous me permettez, là,
Michel Rieu-Sarcey.
C'est vrai que le débat est difficile et on a relativement peu de temps. Je vais essayer d'être extrêmement claire par rapport à la position qu'a développée Chantal Mouffe. Je pense vraiment, personnellement, qu'il est illusoire d'imaginer une conciliation entre la souveraineté populaire et le libéralisme actuel, puisque contrairement à ce que vous laissez entendre, le libéralisme n'a pas évolué vers plus d'État social, c'est plutôt l'inverse. Il est en train d'évoluer vers un néolibéralisme qui déborde, y compris les capacités de gouvernement de chaque nation. Et c'est bien là le problème, et c'est là qu'il faut que nous nous arrêtons. Moi, j'insiste. Alors, les références sont pas les mêmes. Je prends mes références davantage chez Hannah Arendt ou l'école de Francfort. Habermas, de manière un petit peu mesurée, ce qui me paraît le plus important, c'est que ce processus historique qui, dans tous les pays occidentaux, n'a pas donné un modèle occidental. Ce modèle occidental dont vous parlez, ça n'est pas la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple, ça veut dire tout et n'importe quoi. A donné simplement un modèle de démocratie représentative. Comme si le point de vue de Benjamin Constant émis en 1819 était définitif. Et à partir de là, tout semble arrêter, non pas possible, mais arrêter. L'élan extraordinaire que les Lumières d'une part, la Révolution d'autre part, et le processus révolutionnaire, je pense à la Belgique en 1830, qui consistait à imaginer un peuple qui allait vers l'émancipation, ce processus aujourd'hui est stoppé. Et stoppé par un néolibéralisme délétère, gravissime, qui va à l'encontre de ce que vous dites et de vos propositions, puisque ce qui s'est passé en Grèce me semble suffisamment éloquent. La Grèce était prête à transformer radicalement dans ce, disons, cette forme de concession, de concordance entre l'impossible et le possible. Eh bien non. Cela prouve qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible et je crains que Podemos s'oriente dans une direction qui peut-être risque d'être particulièrement difficile à vivre. Retenons cette leçon de l'histoire qui me semble d'une importance considérable. On ne libère pas les peuples, ni par les gouvernements, ni par les avant-gardes. Les peuples se libèrent eux-mêmes et il faut reprendre le slogan de l'émancipation, c'est-à-dire qu'il faut aller vers l'émancipation. Ce slogan de l'émancipation, Miguel Abinsour le démontre de manière admirable, cette émancipation a été arrêtée avec la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, on a trouvé des possibilités, des contournements qui sont à côté et on a oublié le principe même de ce qu'est l'humanité, de ce que les utopistes du XIXe siècle espéraient et imaginaient possible. Je pense à Owen en Angleterre, je pense à ce qui se passait aussi en Espagne, et je pense au rejeu en Espagne avec ce qui s'est passé avec
la critique. Alors justement, Il y a des élections en Espagne demain.
Non, mais écoutez, là, je voudrais...
Chantal Mouffe, la maman de Podemos.
Oui, non, oui, d'accord. Non, mais là, écoutez, il faut tout de même que je clarifie. Parce que je crois qu'il y a un malentendu total. Quand je parle de libéralisme, je parle de libéralisme politique et pas de libéralisme économique. En italien, heureusement, ils ont la possibilité de distinguer... Ils appellent libéralismo, le libéralisme politique, liberismo, le libéralisme économique. Bon, malheureusement, nous, en français, et en anglais non plus, d'ailleurs, on ne peut pas faire cette distinction. Oui. Mais évidemment, quand je parle de libéralisme, quand je défends le libéralisme, je ne défends pas le néolibéralisme. Bon, là,
ni l'ultralibéralisme.
Ni l'ultralibéralisme. Je défends les institutions parce que finalement, je crois ce qu'on appelle le régime républicain, ben, c'est justement l'articulation entre la séparation des pouvoirs, les valeurs pluralistes qui sont fondamentales au libéralisme. Et ça, c'est évidemment, ça peut être articulé à d'autres, à des systèmes politique, pardon, économique différent, bon, clarifions. Mais en fait, là, je crois qu'il y a de toute façon un indifférent avec Michel Rajasariotate, et aussi d'ailleurs avec David Graeber, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui considèrent que le problème, c'est la représentation. Je défends la démocratie.
Pourtant, c'est un des problèmes majeurs de l'essoufflement de la démocratie et de la contestation des peuples vis-à-vis de la représentativité de ceux qui nous gouvernent.
Oui, mais nous avons un problème aujourd'hui avec ce que je dirais la démocratie représentative réellement existante.
Alors, comment faire?
Il y a un problème avec la démocratie démocratique aujourd'hui parce que, tu vois, elle n'est plus du tout représentative. Parce que dans la mesure où il n'y a pas de débat agonistique, dans la mesure où lorsque les gens vont voter, ils peuvent voter entre le centre droit et le centre gauche qui, finalement, offrent les mêmes politiques, bon, qu'est-ce qu'il y a là-bas de choix possible?
Enfin, en Angleterre, le peuple a été invité son avis sur deux types de sociétés, deux types de possibles, deux types de futurs. Vous qui enseignez en Angleterre.
Mais oui, mais justement, j'ai bien assisté à la campagne et c'était pas du tout...
Ça vous a étonné, les résultats?
Non, ça m'a pas étonné. D'ailleurs, ce qui m'a toujours étonné, c'est que les Anglais soient entrés dans l'Union européenne parce qu'ils se sentent pas du tout européens. Donc, moi, ça m'a pas du tout étonné. D'un autre côté, il était évident aussi, et là, ça se rejoint certaines mes préoccupations sur le rôle des affects en politique. On voyait bien dans la campagne, les seuls qui avaient véritablement une passion pour leur argument étaient les Brexiteurs. Parce que du côté de ceux qui voulaient rester, ben, il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme.
Bah, écoutez, excusez-moi, Jo Cox, elle avait quand même un discours plus qu'argumenté. D'ailleurs, elle en est morte. Elle a été assassinée.
Oui, n'exagérons pas. Franchement, je trouve que...
N'exagérons pas, c'est ce qui s'est passé.
Non, mais du côté de ceux qui... Les arguments pour rester, il y avait des exceptions, bien entendu. Peut-être Jo Cox. Mais c'était difficile pour, par exemple, Jeremy Corbyn, qui lui disait, on veut rester en Europe pour la faire plus sociale. Cameron disait, on veut rester en Europe pour la faire plus néolibérale. Donc, c'était très compliqué. Non, mais revenons à la question fondamentale dont on discutait avant, parce que sinon, je vais pas avoir le temps de faire mon argument. La question de la représentation. Ben, je crois que, justement, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui, dans la mesure où, s'il n'y a pas un débat, si les gens ne peuvent pas choisir...
À égalité de connaissances,
d'accord, oui. Alors, à ce moment-là, bon, ben, évidemment, cette démocratie n'est pas représentative. La démocratie représentative ne peut l'être que si elle est agonistique. Et penser que la solution...
Ça veut dire quoi?
Mais non, mais la démocratie directe, je n'y crois pas au niveau général. Alors, bien entendu, je crois qu'il serait important d'avoir différentes formes de démocratie à différents
niveaux. Mais pourtant, on dit que vous êtes la maman de Podemos, que vous avez réinventé des systèmes de démocratie.
Mais écoutez, Podemos, qu'est-ce que veut Podemos? Podemos ne défend pas du tout une démocratie directe. Podemos veut entrer dans les institutions pour pouvoir justement offrir.
Oui, mais les institutions, elles existaient avant Podemos. Alors,
mais
justement,
oui, mais on peut les transformer. Mais on peut les transformer.
Ça a l'air de poser des grandes difficultés par rapport au système démocratique tel qu'il fonctionne actuellement.
Juste un petit point.
Est-ce que je peux terminer mon argument? Oui, franchement.
Oui, mais c'était là-dessus.
Mais écoutez, là, d'abord l'argument, puis vous verrez si vous n'êtes pas d'accord. Bon, la représentation, moi, là j'ai une raison très particulière, théorique, d'insister sur le problème de la représentation. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une démocratie sans représentation. Alors, on nous dit que c'est un oxymoron, la démocratie représentative. Moi, je crois au contraire. Parce que si on accepte, mais alors là, évidemment, c'est tout, ça vient de toute une réflexion théorique qui a été élaborée dans Hégémonie sociale et stratégie, les identités, elles ne sont pas données, elles sont construites. Les identités sont construites à travers justement le discours politique. Alors, bon, la question de la construction d'une identité, c'est toujours une question de représentation. La politique, ça a à voir avec différentes formes de représentation. C'est ça qui est fondamental dans la politique.
Mais alors, comment on fait? Alors, on change les personnalités politiques
qui sont choisies pour nous représenter lors des votes, justement, qu'il y ait... Bon, une autre de mes thèses fondamentales, c'est que la politique, ça a toujours à voir avec la construction d'un « nous » et que ça requiert la détermination d'un « eux ». Ben justement, il s'agit de créer des identités « nous »,« eux », qui permettent un débat agonistique. Et alors là aussi, c'est ben, ça.
Eux, c'est eux et nous, c'est pas eux.
Mais
pour
non,
le moment.
Mais non, c'est pas la même chose. Je veux dire, là, nous et eux, on peut pas avoir un peuple si on ne détermine pas ce qui est pas le peuple. La politique, pour moi, c'est toujours partisan. Une politique qui n'est pas partisane n'est pas de la politique. Donc, il faut toujours qu'il y ait un adversaire.
Alors, en Espagne, que va-t-il se passer demain?
Donc, mais écoutez, en Espagne, bon, on ne peut pas se fier trop aux opinion pool, comme nous disions en Angleterre, parce qu'on a bien vu en Angleterre, elle se trompe toujours dernièrement. Mais, à première vue, il semblerait que l'union Unidos Podemos, c'est-à-dire Podemos avec Izquierda Unida, va arriver en deuxième lieu, juste après le Parti Populaire et avant le Parti Socialiste. Alors, bon, on va voir, je veux dire... Tout va dépendre, évidemment, de la position que le Parti Socialiste va prendre, parce qu'aucun des deux ne vont avoir la majorité absolue. Donc, est-ce qu'ils vont permettre à Rajoy et au Parti Populaire de gouverner? Donc, pour eux, c'est vraiment maintenir le système.
Donc, il y a une déstabilisation institutionnelle qui va poser des problèmes de fonctionnement.
C'est la fin du bipartisme.
Démocratique.
Ça, certainement. Ou alors, est-ce qu'ils vont appuyer le Podemos et permettre un gouvernement de changement? Bon, là, on n'aura pas à savoir.
Alors, comment réinventer la démocratie aujourd'hui? Il nous reste quelques minutes.
Mais je crois que, justement, Podemos montre une façon de réinventer la démocratie. Parce que Podemos, à la fois... présente un projet qui soit un projet qui mette vraiment en cause l'hégémonie néolibérale. Il s'oppose, par exemple, au diktat de l'Union européenne par rapport à la politique d'austérité. Donc, ils veulent offrir un projet qui soit un projet alternatif. Et aussi quelque chose d'important pour réinventer la démocratie, c'est que Podemos, c'est un parti-mouvement. C'est-à-dire, ce n'est pas un parti traditionnel, c'est pas uniquement un parti, c'est aussi, il est articulé avec des círculos. Donc, il y a à la fois, si vous voulez, une articulation entre le mouvement social et ce qu'ils appellent la machine électorale. Et là, je crois que c'est ça, la façon de réinventer la démocratie, de permettre une nouvelle forme de démocratie représentative, parce que Podemos ne s'oppose pas du tout à la démocratie représentative, mais qui soit véritablement représentative, qui offre aux gens la possibilité d'un choix véritable.
Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant, de plus scandaleux que de ne pas croire en la démocratie? Et pourtant, moi-même, quand on me demande « êtes-vous démocrate ?», je me tâte. Attitude révélatrice dans la mesure où, face à la gravité de ce genre de questions, la décence voudrait plutôt que l'on cessât de se tâter. Un ami royaliste me faisait récemment remarquer que la démocratie était la pire des dictatures, parce qu'elle est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Mais oui, réfléchissez-y une seconde, c'est pas idiot. Pensez-y avant de reprendre inconsidérément la Bastille.
Michel Rios-Arce, comment réinventer la démocratie aujourd'hui?
C'est des choses...
Et êtes-vous aussi optimiste que l'est Chantal Mouffe sur les conséquences de la... du référendum britannique et de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne?
Non, moi je n'ai pas ni de pessimisme, ni d'optimisme. La question, elle est ailleurs. Maintenant, c'est fait. Il va falloir penser l'Europe de manière différente. Mais surtout, ce qui m'importe, moi, c'est la question de la démocratie réellement, vous avez parfaitement raison, réellement représentative. Dans la situation présente, si nous ne tenons pas compte des disparités sociales qui sont absolument gigantesques, de plus en plus grandes, que ce soit en Espagne, en France et ailleurs. Et je ne parle pas de la situation internationale, de la situation des migrants, qui est au cœur aussi du débat en Angleterre et qui a été aussi un des facteurs considérables de la sortie de l'Angleterre de l'Europe. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte par la totalité de la population. Ça veut dire que si on envisage une démocratie représentative, et je veux bien faire crédit à Podemos de ce point de vue, pour l'instant, il n'a pas le pouvoir. Simplement, il est absolument indispensable que ces méthodes démocratiques telles qu'elles ont existé par la médiation d'un libéralisme forcené, je crois que c'est essentiel. C'est-à-dire que il faut non seulement des représentants, mais des représentants qui constamment doivent rendre des comptes à une population toujours attentive à la question de la représentation. Mais cette population, elle n'est pas unie. Cette population, elle est extrêmement en conflit permanent sur le plan social. La totalité des positions qui sont défendues aujourd'hui dans tous les pays européens, c'est une question centrale, la disparité sociale. Donc, que vous le vouliez ou non, la question de la lutte de classe existe, elle est présente. Et il est impossible de régler la question du politique sans penser à la question sociale. Et ça, on l'a oublié. C'est un vieux débat qui date du 19e siècle. Et lorsque les insurgés au 19e siècle associaient de manière extrêmement lucide et extrêmement concrète la République à la démocratie sociale, ça avait un sens. On a oublié ça.
Et au 21e siècle, alors, Chantal Mouffe,
Une petite correction. Vous avez dit que j'étais très enthousiaste par rapport au Brexit. Je n'ai rien dit.
Non, mais vous n'avez pas l'air de trouver ça férocement grave par rapport au projet européen qui vous tient tant à cœur, en fait.
Oui, parce que j'espère que ça va être un choc salutaire pour l'Europe, qui va se rendre compte que, justement, ils ne peuvent pas continuer. Parce que moi, mon problème, c'est aussi avec l'Europe réellement existante. Évidemment, je ne veux pas de cette Europe réellement existante parce que c'est une Europe néolibérale. Mais je crois encore à la possibilité d'une refondation démocratique de l'Europe. Et je crois justement que peut-être le choc du Brexit va pousser les Européens à se dire « Ah non, mais on va dans une mauvaise fausse route, donc il faut qu'on repense, qu'on démocratise l'Europe. » Et bien entendu, ça doit tenir compte, je suis absolument d'accord sur le fait que il faut l'égalité sociale est absolument fondamentale pour la démocratie, ça il n'est pas question de dire, mais enfin, et Podemos, tout le projet de Podemos, c'est justement de représenter tous ceux qui ont souffert des mesures. Parce qu'il y a, en fait, ça c'est vrai pour l'Espagne, mais c'est vrai pour nos sociétés, c'est un grave problème. Je veux dire, sont en train de s'oligarchiser. Il y a une séparation de plus en plus grande entre la classe moyenne est en train de se prolétariser, de se paupériser, de se précariser. Et puis, à côté de ça, on a un groupe de super riches. Donc là, il faut vraiment... Ça, c'est ça, pour moi, là, une des questions fondamentales de la crise de la démocratie et du fait que nous vivons en post-démocratie.
Merci beaucoup à toutes les deux. Vous l'avez compris, le débat continue. La démocratie est toujours à réinventer, et pour la réinventer, ben, vous pouvez lire les bouquins de Chantal Mouffe, notamment L'illusion du consensus, et ceux de Michel Rio-Sarcé, Le procès de la liberté. Et comme chaque fois à la fin de Permis de penser, eh bien, nous terminons en musique.
Départementale, ces films à accord parental, ces associations de loi 1901, ces collectifs à but non lucratif, les débats télévisés, les apéros les soirs d'été, les plages au sud surpeuplées, les touristes allemands à la peau grillée, les bus et les quartiers, les commerces de proximité, les rues pavées, les villes fleuries, les villages, les cantonniers. Liberté, égalité, fraternité, fragilité. Tu la connais ? La liberté, l'égalité. Tu la connais ? La benne à verre, les grandes surfaces, les chariots à pièces et les promos de Noël, les lotissements, les balançoires sur le gazon, les enfants qui jouent au ballon, le chien méchant derrière le portillon. Solitude, l'inquiétude, la liberté, l'égalité, la fraternité, la fragilité. Tu la connais ? La connais, la France.
Et bien sûr, vous avez reconnu Mickey 3D. Merci à Charles Pélabon, Michel Billoux, Ophélie Vivier et Jean-Baptiste Dibert.